Merci Seigneur. Alors, je vous invite à trouver 1 Chronique, chapitre 29. Nous allons lire ce texte dans quelques instants. 1 Chronique, chapitre 29. Il s'agit justement d'une prière du roi David. Mais je vous rappelle que 1 Chronique est dans l'Ancien Testament et 1 Corinthiens est dans le Nouveau Testament. 1 Chronique, chapitre 29, c'est ce fameux livre qui commence avec 9 chapitres de généalogie. Mais 29, c'est vers la fin de ce livre. Le texte, les versets que nous allons lire ce matin, pourraient être lus lors de l'inauguration d'une salle évangélique. Parce qu'il est question d'un lieu de culte et d'un début de lieu de culte, à savoir le temple de Jérusalem. Les versets que nous allons lire pourraient être lus avant une journée de travaux dans une salle évangélique. Parce qu'il est question de construire une salle évangélique, enfin, le temple de Jérusalem. Le texte que nous allons lire pourrait être lu avant ou au début d'une réunion de prière. Parce qu'il s'agit d'une prière. Et chose intéressante dans cette prière, David demande presque rien. Il a plus ou moins 2 demandes à la fin de cette prière. Il demande que le cœur des croyants soit bien disposé. Il demande que le cœur de son fils, Salomon, soit bien disposé. Alors je ne répéterai jamais assez l'importance de prier, pas seulement pour nos frères et sœurs, mais de prier, si nous avons des enfants, pour nos enfants. Et si possible, de prier avec nos enfants. Chose vitale. Le texte que nous allons lire pourrait aussi être lu pendant une agape. On dit parfois un agape, d'autres disent une agape. Moi, mon ordinateur me dit que c'est féminin. Prier ou être lu juste pendant une agape. Parce que, après cette prière, les croyants mangent ensemble. Ils font une agape. Et c'est très bien. Ces versets que nous allons lire pourraient être lus pendant une assemblée générale. Parce qu'il est question des finances. Et juste avant le rapport d'un trésorier lors d'une assemblée générale, ces versets conviendraient très bien. Parce que nous lisons que, juste avant ces versets, que les croyants ont apporté des milliers de kilos d'argent, d'or et de bronze. Quel trésorier d'église, ou en l'occurrence, quelle trésorière d'église ne rêverait pas que les chrétiens amènent des kilos d'or, d'argent et de bronze. Je ne regarde personne en particulier, mais je suis sûr que Jacqueline serait ravie si on faisait ça chaque dimanche. Ces versets pourraient être lus aussi dans le contexte d'une série de messages sur la personne de Dieu. Et c'est notre cas ce matin. Parce que nous apprenons des choses au sujet de Dieu. Et nous apprenons aussi comment nous devrions réagir avec ce que nous apprenons au sujet de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais lire ces versets. 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 20. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David dit: « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que ton règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des étrangers, des résidents temporaires, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom. Tout t'appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions de pensée et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage pour qu'il garde tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il bâtisse l'édifice pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu !» Et tous ceux de l'assemblée bénirent l'Éternel, le Dieu de la terre. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Dans la Bible, nous avons 1189 chapitres. Ça, c'est sûr. Dans la Bible, quelqu'un a répertorié 667 prières. Je me suis demandé s'il n'avait pas compté 666 prières et il voulait arrondir à 667 pour éviter 666. Peut-être pas. En tout cas, on a répertorié 457 réponses à la prière. Alors, je ne mettrai pas ma main au feu par rapport à toutes ces statistiques, mais ce que nous avons dit ici, c'est une des centaines de prières qui est dans la Bible. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est partir sur deux axes dans le contexte qui est Dieu pour toi, qui est Dieu pour nous, qui est Dieu pour moi. Deux axes tout simples. D'abord, ce qui appartient à Dieu. Ensuite, ce qui revient à Dieu, selon ces versets. D'accord? D'abord, ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Eh bien, T-O-U-T. Tout lui appartient. David le dit plusieurs fois. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, versets 12, 14, 16, tout est au Seigneur. Il dit même, mais ce qu'on te donne, Seigneur, c'est parce que tu nous as donné ce qu'on va te rendre, ce qu'on te donne lors de notre culte. Tout appartient au Seigneur. David n'est pas la seule personne dans la Bible qui dit cela. Dans le petit prophète, le livre du petit prophète Agée, nous lisons dans Agée 2, verset 8, Dieu parle par le prophète, il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du maître de l'univers. Tout appartient au Seigneur. Cela veut dire que, à la fois, les ressources naturelles de la planète lui appartiennent, et nos biens matériels à nous, lui appartiennent. Parlons un peu des ressources naturelles de la planète. Est-ce qu'on devrait parler des ressources naturelles de la planète ou est-ce qu'on devrait plutôt parler des dons de Dieu à la planète et à l'humanité? C'est plutôt de ça qu'il s'agit. Les ressources naturelles de la Terre sont bien sûr vitales pour la survie et le développement de l'humanité, que ce soit l'eau douce, les poissons, le pétrole, le charbon, le gaz, la flore, la faune, les mines de diamants. D'ailleurs, une question. Où sont la plupart des diamants sous terre dans le monde? Dans quel pays? Vous savez? Médaille de bronze, l'Australie. Médaille d'argent, Botswana. Première place, la Russie. Mais tous ces diamants appartiennent au Tout-Puissant, au Seigneur. Certaines ressources sont bien sûr pas éternelles. Et l'ONU se rend compte depuis quelques années seulement que c'est un problème planétaire. Et si vous suivez les infos, en ce moment même, je crois que c'est à Copenhague, il y a une rencontre de GIEC, j'oublie ce que ça signifie, mais c'est un groupe international qui étudie le problème de la disparition de ses ressources naturelles. Et leur conclusion vente de l'histoire, c'est que ces choses sont en train de disparaître et les coupables, c'est nous, l'humanité. Nous sommes en train de démolir, de gaspiller ce que Dieu nous a confié. Il y a 2000 ans, l'apôtre Jean a dit exactement la même chose. Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 18, voilà ce que dit l'apôtre Jean. Seigneur, ta colère va arriver. Seigneur, l'heure est venue où tous les morts seront jugés. Tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, les petits et les grands, seront récompensés. Par contre, c'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Ceux qui détruisent la terre seront détruits. Sans appel. Dites, non pas il y a un mois aux Nations Unies, mais il y a 20 siècles dans le livre de l'Apocalypse. Nos ressources naturelles ne sont pas à nous, mais appartiennent au Seigneur. Nos biens matériels ne sont pas à nous, mais ils appartiennent au Seigneur. Dieu nous prête. Il nous demande de gérer. Dieu nous confie. Il nous demande de maîtriser. Dieu nous donne. Il nous demande de partager. Dieu nous remet. Il nous demande de protéger. Gérer, maîtriser, partager, protéger nos ressources naturelles, nos biens matériels. Le peuple à l'époque de David avait bien compris cela. Et c'est pourquoi ils ont rendu à Dieu ce que Dieu leur avait prêté. Ils ont participé à cette collecte, à cette offrande pour le bâtiment, et ils nous ont laissé un modèle. Parce qu'ils ont donné au Seigneur de façon intentionnelle, personnelle, et j'imagine, sacrificielle. Étant donné que tout appartient à Dieu, gare à ceux qui gèrent mal ce que Dieu leur a prêté. Étant donné que tout appartient à Dieu, gare à ceux qui maîtrisent mal ce que Dieu leur a confié. Étant donné que tout appartient à Dieu, gare à ceux qui partagent mal ce que Dieu leur a donné. Étant donné que tout appartient à Dieu, gare à ceux qui protègent mal ce que Dieu leur a remis. Romains 11, 36. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Selon ce texte, ce qui appartient à Dieu, c'est tout simple. Les ressources naturelles et nos biens matériels. Deuxième point et dernier point, ce qui revient à Dieu. Qu'est-ce qui revient à Dieu? Eh bien, selon ce texte, nous voyons que David et le peuple passent leur temps à louer Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Il utilise même un mot qui peut nous paraître bizarre, nous te bénissons. C'est curieux ça peut-être pour certains. Bénir Dieu. Béni soit le Seigneur. Ce mot béni, quand il est utilisé dans la Bible, a trois significations différentes. Le mot béni peut signifier accorder la faveur divine ou octroyer des grâces. Par exemple, il est écrit « Dieu bénit le septième jour ». C'était un jour à part. Le mot béni signifie aussi invoquer ou souhaiter la faveur de Dieu sur une personne. Pierre dit dans son épître « Bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent ». Ça veut dire, au lieu d'en vouloir, il faut prier que Dieu leur fasse du bien. Parfois dans nos prières, nous disons « Seigneur, bénis mon frère qui est éprouvé ». Ça veut dire « Seigneur, fais-lui du bien ». « Bénis ma sœur qui est malade. Seigneur, fais-lui du bien. Bénis tous les missionnaires. » Je décourage toujours qu'on prie de cette manière-là. Prions de façon précise. Seigneur, fais du bien à celui-là, à celle-ci. Deuxième sens. Le troisième sens de ce mot, bénir, c'est adorer Dieu pour qui il est. Ou en d'autres mots, quand on bénit Dieu dans ce sens-là, il s'agit de dire des choses qui sont vraies au sujet de Dieu. David le fait ici, il dit, Seigneur, nous te bénissons. Tu es grand, tu es puissant, tu es fidèle, tu es amour, tu es. C'est dire ce qui est vrai au sujet de Dieu. Et parfois dans nos chants, parfois dans nos prières lors d'un dimanche matin ou du jeudi soir, même si on n'utilise pas le mot béni ou bénir, quand on dit ce qui est vrai au sujet de Dieu, nous sommes en train de bénir. Nous sommes en train de faire des éloges au sujet de notre Seigneur. David ici, il bénit le Seigneur en disant qu'il est grand, glorieux, puissant, éternel. Lorsque nous lisons Apocalypse 4 et 5, nous voyons qu'il y a plusieurs moments de culte dans le ciel et nous voyons que ceux qui adorent le Seigneur bénissent Dieu de la même manière que David. Ils disent ce qui est vrai au sujet de Dieu. Je peux vous dire que lorsque je prie avec quelqu'un qui est influencé par des pratiques occultes, avant de demander quoi que ce soit, je passe quelques minutes à bénir Dieu, c'est-à-dire à dire ce qui est vrai au sujet du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je fais cela parce que le diable et les démons n'aiment pas ça. Et quand je fais cela, parfois il y a des manifestations dans la maison, dans la pièce où nous sommes, parce que le diable réagit. Mais il ne devrait pas avoir peur. Nous devons dire ce qui est vrai au sujet de Dieu. Et en disant ce qui est vrai, nous chassons tout ce qui est mensonger autour de nous. Prenons l'habitude de bénir Dieu, de louer Dieu et d'adorer Dieu. Pourquoi bénir Dieu? Pourquoi louer Dieu? Eh bien ici, il donne deux raisons. On doit louer le Seigneur pour ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ici, verset 12? Il pourvoit aux besoins de son peuple. Verset 12, il affermit, il fortifie son peuple. Verset 17, il connaît et il sonde le cœur de son peuple. Nous, au 21e siècle, nous devons louer le Seigneur parce qu'il connaît nos besoins, nos faiblesses. Il peut nous fortifier. Il connaît notre cœur et malgré ça, chose étonnante, il nous aime, bien qu'il connaisse notre cœur par cœur. Ça peut se dire, hein. Il nous aime, malgré cela. Nous pouvons bénir, louer le Seigneur pour ce qu'il fait et aussi pour ce qu'il est. Selon ce texte, il est fidèle. Dieu évoque la fidélité de Dieu en disant, tu es le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Israël, ou si vous préférez, Jacob. Ils savaient que Dieu était un Dieu fidèle envers leurs ancêtres. Ils savaient que Dieu aussi était un Dieu personnel. Je dis cela parce qu'il dit, Seigneur, tu es notre Dieu, à deux reprises. Une fois, il dit, Seigneur, tu es mon Dieu. C'est incroyable. Il n'est pas seulement notre Dieu, mais il est mon Dieu. Un Dieu éternel, un Dieu personnel. Et il est aussi un Dieu fidèle, personnel, il est aussi un Dieu éternel. Verset 10, verset 20. Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as toujours été, tu seras toujours. Je suis, j'ai été, je serai. Jéhovah, l'éternel. Seigneur, tu es éternel. Est-ce que vous avez compris cela? J'espère que non. Parce que nous ne pouvons pas saisir l'éternité de Dieu. Notre cerveau est fini. Ou certains diraient que mon cerveau n'est pas bien fini. Mais bon, notre cerveau est fini, le contraire de l'infini. Et nous ne pouvons pas comprendre ce qui est infini. C'est pourquoi nous devons adorer Dieu et dire, Seigneur, tu es tout autre. Quelle était la réaction de David et du peuple ici? Eh bien, la réaction personnelle de David, qui suis-je? Qui suis-je? Je ne mérite rien. Verset 14. Ailleurs dans un psaume, nous lisons, je ne suis qu'un ver de terre. Vous savez, il y a un frère qui écrit des feuillets, des calendriers dans Méditation quotidienne, et au lieu de mettre son nom, il met VDT. Cette semaine, il y avait VDT. Et c'est un frère qui veut rester anonyme, enfin, jusqu'à aujourd'hui, et qui dit, mais je ne suis qu'un ver de terre, je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne mérite rien. C'est très humble, si on veut. Mais tout le monde sait que tôt ou tard, on va chercher son nom. C'est un frère, l'année prochaine, il n'y aura plus de VDT, je crois, sur le calendrier. Ou peut-être c'est à partir de 2015, parce que son nom va apparaître. Si vous voulez savoir son nom, ce message est enregistré, donc il doit rester humble, donc je ne dirai pas. En tout cas, c'est un frère que vous ne connaissez pas, mais il habite pas très loin de Lyon. Mais, ce n'est pas moi, hein, c'est sûr. De temps en temps, quand je veux louer le Seigneur, je vais sur YouTube et je clique sur Cantique de Elvis Presley. Et il y a des cantiques qu'il chante. Dans son dernier concert, un de ses derniers chants qu'il a chanté, qui, quelques semaines avant de mourir, était « Dieu Tout-Puissant, comment que cœur considère ». Mais un des cantiques préférés de Elvis et de moi, c'est quand il chante « Mais Seigneur, qui suis-je pour que le roi des gloires meure pour moi ?» Qu'il ait cru de tout son cœur ou autre, je ne suis pas là pour en parler. Mais quand il chante ça, je dis « Mais Seigneur, qui suis-je » David dit « Qui suis-je ?» Je pense à Job. Au cours de l'intervention de Dieu à la fin du livre de Job, Dieu lui pose, selon un spécialiste, 77 questions. Et Job n'a zéro réponse. Si vous passez un DS avec 77 questions et vous rendez une copie blanche, eh bien, bonjour les dégâts. Mais à la fin de cet interrogatoire, ou cette interrogation, Job, il dit, « Seigneur, je ne dis rien. Je mets ma main sur ma bouche. » Il sait que Dieu lui a montré sa petitesse comparée à l'immense grandeur de Dieu. Il sait qu'il ne vaut pas grand-chose. Je pense à l'officier romain dans Matthieu 8, verset 8. Jésus va aller chez lui et dit, « Mais Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes sous le toit de ma maison. Je ne suis rien. Un ver de terre. » Je peux vous dire que lorsqu'un chrétien se rend compte qu'il n'est rien devant le Seigneur, qu'il ne mérite rien devant le Seigneur, qu'il se rend compte que tout est par grâce, à partir de ce jour-là, ce chrétien-là arrêtera de faire semblant, il arrêtera de faire de la comédie et il deviendra tout feu, tout flamme pour le Dieu qu'il aime. Tout est par grâce. La réaction de David, qui suis-je? Je ne mérite rien. La réaction du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inclinent. Mais mieux que ça, ils se prosternent. Vous savez ce que c'est de se prosterner? Je vais vous montrer. J'enlève mes lunettes. Je vais les casser. J'ai mis une chemise grise pour le carrelage et la poussière grise. Se prosterner devant le Seigneur. Et quand on fait ça, on se rend compte, mais Seigneur, je suis sur terre. Seigneur, je suis par terre. À terre. Et je te loue et je te bénis. Parce que tu m'aimes. Parce que tu es tout pour moi. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de croyants se prosternent. Dans le Nouveau Testament, l'attitude qui semble prévaloir, c'est une attitude qui devrait convenir aux Lyonnais. À table, non? les gens avaient l'habitude de s'agenouiller devant le Seigneur, de se mettre à genoux devant le Seigneur. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça devrait convenir aux habitants de Lyon? Quel est le surnom de la ville de Lyon? Ça va être affiché sur l'écran. Quel est le mot grec pour genou? Pas mal, hein? Je n'invente rien. Est-ce que nous avons l'habitude, malgré notre rhumatisme, nos crises d'arthrite et d'arthrose et tout le reste, même si on ne fait pas physiquement, littéralement, dans notre cœur, on doit toujours vivre, prier, à genoux, devant le Seigneur. Il est au ciel. Nous sommes sur terre. La réaction personnelle, Seigneur, qui suis-je? La réaction communautaire, s'incliner, se prosterner devant notre roi des rois. Aucun mérite, aucun droit, tout est par grâce, tout est par lui, de lui et pour lui. Et quand nous adorons, quand nous louons le Seigneur, un synonyme de cela, c'est de vivre dans la crainte de Dieu. Craindre l'Éternel. Et j'ai fini avec une citation d'un grand écrivain du XXe siècle qui s'appelle Wiersbe, qui a écrit à peu près 80 livres bibliques et commentaires. Craindre Dieu, c'est l'aimer et l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il vit. Signé W.W. Warren W. Wiersbe. Que le Seigneur nous aide à l'adorer, à le bénir, à le servir, à genoux, prosterné devant lui, et que le Seigneur nous aide à prier et à vivre, jour après jour, parce que nous avons un Dieu merveilleux. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons prendre les paroles de cet officier romain, de David, de Job et de tant d'autres, et dire, mais qui sommes-nous pour que tu nous fasses la grâce de vivre? Qui sommes-nous pour que tu regardes, pour que tu nous entendes? Seigneur, nous savons que tout est par grâce, et nous te prions de nous aider, Seigneur, à approfondir qui tu es, et à te louer pour qui tu es et pour ce que tu fais. Seigneur, nous sommes tellement ignorants et nous te prions de nous instruire, de nous diriger et de nous aider à te servir, à te louer et à t'adorer, car toi seul, tu es digne de notre cœur, de nos pensées, de notre amour et de notre louange. Amen. Thank you.